Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Guten Tag, bonjour à tous. Ces quelques notes, les aurez-vous reconnues? Elles sont extraites de l'International Chant Révolutionnaire écrit par un Français en 1888 et traduit par la suite dans de très nombreuses langues. Un chant symbole des luttes sociales à travers le monde. Un chant aussi qui reprend l'appel de Karl Marx, le grand philosophe allemand décédé il y a tout juste 130 ans. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Expliquer Karl Marx en moins de 10 minutes, ce n'est pas simple, mais nous essaierons d'approcher un tant soit peu le personnage et ses idées. Et puis nous irons aussi à la rencontre d'un autre personnage, Theodor Michael, figurant noir dans des films de propagande nazie. Deuxième volet de son témoignage. C'est Constance Dunkötze au micro. Bienvenue à toutes et à tous. Ils n'étaient pas nombreux à accompagner Karl Marx, décédé le 14 mars 1883, il y a 130 ans, jusqu'à sa dernière demeure. On comptait 11 personnes au cimetière londonien Highgate, où il est enterré. Londres, terre d'exil pour Karl Marx et sa famille après l'échec du Printemps des Peuples, une révolution qui a eu lieu en 1848 dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne. Vaincu par la maladie, Karl Marx s'éteint à l'âge raisonnable pour l'époque de 65 ans, laissant derrière lui une œuvre politique et philosophique notamment colossale. Son ouvrage majeur est un pavé, au propre comme au figuré, Le Capital, critique de l'économie politique. Karl Marx est né le 5 mai 1818 au numéro 10 de la Brückenstraße à Trèves, une ville située aujourd'hui dans la région du Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne. Après des études de droit, d'histoire et de philosophie, il commence une carrière de journaliste et devient rédacteur en chef de la Rheinische Zeitung, la Gazette Rhénane. Ses articles qui appellent à la révolte dérangent et le journal est rapidement interdit. En 1843, il se rend avec sa femme à Paris, où il se lie d'amitié avec un autre grand philosophe allemand, Friedrich Engels. Les deux hommes fréquentent assidûment les groupes révolutionnaires et communistes parisiens. Elisabeth Neu, pédagogue au musée de la maison de Karl Marx à Trèves.
C'est l'époque de la révolution industrielle, une révolution qui a beaucoup changé le quotidien et le travail des gens et qui a aussi creusé de plus en plus le fossé entre riches et pauvres. Karl Marx s'y est beaucoup intéressé, il a essayé de comprendre le fonctionnement du capitalisme, pourquoi il se transforme en un système d'exploitation et comment changer les choses.
Karl Marx est chassé une première fois de France car considéré comme un dangereux révolutionnaire. S'ensuivent alors plusieurs allers-retours entre Bruxelles, Cologne, de nouveau Paris, puis finalement Londres, le tout au gré des poursuites judiciaires, des expulsions et d'une situation très précaire sur le plan financier. En 1867, le philosophe publie enfin, après plus de 20 ans de travail, la première partie du Capital. Les deux tomes suivants seront rédigés par Friedrich Engels après la mort de son ami. Le Capital, ou une critique sévère du capitaliste, un système que Karl Marx qualifiait d'aliénant, d'injuste et d'instable, le Capital ou la défense du prolétariat et la vision rêvée d'un monde sans classe sociale. La pensée de Karl Marx a inspiré bien des régimes politiques, à commencer par l'URSS et par-delà, durant la guerre froide en particulier, de nombreux pays sur le continent africain, alliés ou non au bloc de l'Est. Mais même après la chute du mur de Berlin en 1989, les théories marxistes continuent de diviser et de fasciner. Elisabeth Neu.
hatten gerade nach der Wende in Deutschland sehr viele Besucher aus der ehemaligen DDR.
Après la chute du mur de Berlin, nous avons eu beaucoup de visiteurs de l'ex-Allemagne de l'Est. Souvent, ce sont des gens qui en avaient plein le nez de Karl Marx. Ils en avaient entendu parler en long, en large et en travers, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que le régime communiste le leur imposait. Et du coup, ils venaient visiter notre musée pour se faire leur propre idée du personnage, en se disant qu'on leur avait peut-être aussi donné une mauvaise image de lui. De même, il y a aussi beaucoup d'étrangers qui arrivent dans le musée en se disant que Karl Marx est quand même le communisme, qui a aussi été à l'origine de beaucoup de souffrances. Et ils souhaitent rencontrer, disons, personnellement l'homme, se demander si on peut le rendre responsable de ce qu'on a fait de ses idées après sa mort.
Aujourd'hui, avec la crise économique, les dérives de la mondialisation, le réchauffement climatique, Karl Marx revient sur le devant de la scène. Banquier et opérateur financier l'étudient pour comprendre comment fonctionne le capitalisme, tandis que ceux qui luttent contre le système se réfèrent encore et toujours à lui. Quant au musée installé dans sa maison natale à Trèves, il accueille 40 000 visiteurs par an, dont 60% d'étrangers. Comme promis, nous retrouvons maintenant Audrey Parmentier pour le deuxième volet de sa contribution sur les Noirs utilisés par les nazis pour leur propagande colonialiste. Le Deutsches Historisches Museum, le musée historique allemand, a invité récemment Théodore Michael à venir témoigner. Cet Afro-Allemand de père camerounais et de mère allemande, aujourd'hui âgé de 88 ans, a passé son enfance à faire de la figuration dans les films de propagande nazie.
Théodore Michael est en photo dans l'exposition du musée intitulée « Berlin zerstörte Vielfalt », autrement dit « Berlin ou la diversité détruite ». On le voit avec sa sœur Juliane jouer dans un film ou plutôt faire de la figuration, car c'est ce que les nazis demandaient pour leur propagande colonialiste à des hommes, des femmes et des enfants d'origine africaine. Dans le cadre de l'exposition, le musée a organisé une projection du documentaire « Des Grooms dans l'industrie des rêves » d'Annette von Wangenheim. Il s'agit d'une analyse d'extraits de films de propagande. Dans celui que vous entendez, Chico, un jeune coursier, offre des fleurs à l'héroïne qui le félicite et le qualifie de « gentleman ». Mais dans l'imaginaire nazi, ce geste est complètement déplacé. Chico sort de son rôle et se veut l'égal de la femme allemande. La punition ne se fait pas attendre. Le maître d'hôtel le gifle en public. Et le message de propagande qui ressort de cet extrait est le suivant : les Noirs doivent se contenter de servir les Allemands. Théodore Michael ne compte plus les rôles de groom qu'il a dû jouer ou encore ceux du noir sauvage, torse nu et avec un pagne ou une jupe en raffia, autant de clichés qu'entretenait la propagande nazie. Les femmes d'origine africaine, elles, incarnaient souvent la tentation. Et là encore, la morale de l'histoire était claire : l'amour entre un blanc et une noire est tabou. Dans cet extrait du film « Les chevaliers de l'Afrique de l'Est allemande » sorti en 1934, le héros tombe amoureux d'une des femmes noires de la plantation dans laquelle il travaille, mais un de ses amis lui rappelle rapidement que la femme africaine n'a pas sa place dans la maison d'un blanc, si ce n'est en tant que servante. De même qu'ils interdisent les mariages entre Allemands et Juifs, les nazis condamnent les unions entre Allemands et Noirs. Avec les lois de Nuremberg de 1935, ces mariages deviennent illégaux. Ces lois excluent également de la vie sociale tous ceux que les national-socialistes considèrent comme des « Untermenschen », des sous-hommes, les Juifs, les Roms et les Noirs, à commencer par la vie scolaire, comme l'explique Théodore Michael.
On avait seulement le droit d'aller à l'école élémentaire. Les niveaux suivants étaient réservés aux Aryens. On n'avait donc pas le droit de faire une formation, ce qui a été décisif après la guerre. Le baccalauréat était exigé pour tous les postes et nous ne l'avions pas.
Les Noirs perdent également tous leurs droits civiques et très vite, les nazis leur interdisent de se produire en public. Face à tous ces obstacles, les trois frères et sœurs de Théodore Michael décident de quitter le pays, à commencer par James, un artiste acrobate qui part en France en mars 1933, peu après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Puis, c'est au tour de Christiane et de Juliane de s'exiler.
Ceci dit, en France, avec l'occupation, ils étaient autant en danger que moi. Mon frère, James, avait le choix entre la Légion étrangère et l'internement dans un camp. Il a tenté d'expliquer qu'il avait été chassé d'Allemagne, qu'il n'avait rien à voir avec les nazis, mais il n'y a rien eu à faire. De nombreux immigrés qui avaient fui l'Allemagne ont été remis ensuite aux nazis. Juliane est entrée dans la clandestinité. Nous n'avions pas de papier, rien.
Théodore, lui, est obligé de rester parce qu'il n'est pas majeur. Et en 1943, il est interné dans un camp de travail dans les environs de Berlin, d'où il sort 2 ans plus tard, à la fin de la guerre. Il décide alors de passer son bac et de faire des études, et surtout de s'engager en faveur de la communauté afro-allemande.
C'était vraiment affreux, cette période nazie. Mais ce qui est décisif, c'est que nous ayons survécu, c'est que nous ayons tiré des leçons de cette époque et que nous racontions ce que nous avons vécu. C'est ce à quoi je me consacre aujourd'hui. J'aurais très bien pu choisir de me taire, mais pour les générations à venir, il est important de savoir ce qui s'est passé.
80 ans après la prise de pouvoir par Adolf Hitler, les Noirs qui ont été persécutés par le régime nazi n'ont toujours pas été reconnus par l'Allemagne. Aucune compensation financière ne leur a été versée.
Suite et fin de la rencontre avec Théodore Michael, figurant noir dans les films de propagande nazie. Avant de clore cette émission, je vous rappelle que vous pouvez la télécharger sur notre site internet www.dw.de/français. Vous retrouverez également sur notre site la dernière contribution des élèves d'une école de Boyol qui nous ont accompagnés ces dernières semaines. Et puis si vous voulez nous écrire, il suffit d'envoyer un mail à français@dw.de. Merci pour votre fidélité. Excellente semaine et tschüss.
Stop!